pas entendre une étymologie grecque ou latine, mais en fait ça vient du nom d'un mathématicien perse, et ça désigne tout simplement une procédure, une suite logique de tâches ordonnées en vue d'atteindre un objectif précis, cet objectif étant généralement, en tout cas jusqu'à récemment, défini par un humain. Donc c'est un terme qui fait souvent assez peur, et on se dit qu'il a trait aux mathématiques, et donc quand on ne comprend pas grand-chose aux mathématiques, on se dit « je ne comprendrai pas grand-chose aux algorithmes ». Mais en fait, il n'y a pas du tout besoin d'être technicien pour comprendre l'objectif d'un algorithme. En fait, il y a la même nécessité de comprendre ce qu'est un algorithme au sens mathématique pour comprendre l'objectif d'un algorithme qu'il est nécessaire, par exemple, de comprendre le fonctionnement d'un moteur thermique pour comprendre l'objectif d'une voiture. Autrement dit, ce n'est pas du tout nécessaire de comprendre en détail ce qu'est un algorithme pour savoir quelle est la fin poursuivie par cet algorithme. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, la grande majorité, l'écrasante majorité des algorithmes conçus se contentent d'obéir aux objectifs définis par leur créateur ou leur propriétaire.
Et c'est là alors qu'on parle d'algocratie ?
C'est effectivement là qu'on parle d'algocratie, puisque ces objectifs définis par les créateurs ont souvent trait à la vie publique, et on parle d'algocratie, en fait c'est le régime dans lequel on délègue une part croissante de l'organisation de notre vie publique à des algorithmes. Et aujourd'hui c'est évidemment le cas de façon très prononcée, bien qu'on ne s'en rende pas systématiquement compte. Par exemple, la moitié de l'humanité interagit quotidiennement avec un algorithme à raison d'environ 2 heures par jour sur les médias sociaux. Il s'agit d'une classe bien particulière d'algorithmes appelés les algorithmes de recommandation. C'est ceux auxquels j'accorde la plus grande importance dans mon livre. Alors si vous prenez YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, tous ces médias sociaux, ils ont des fonctionnalités distinctes, bien que ce soit de moins en moins distincts les uns des autres. Mais ils ont essentiellement le même modèle économique qui consiste à capter l'attention de plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de personnes, et à convertir leur temps d'attention en revenus publicitaires. Donc, ça veut dire que ces immenses sociétés sont en compétition pour s'accaparer une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est notre temps d'attention. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et aujourd'hui, parmi les algorithmes les plus influents du monde, une grande partie sont mis au service de cette extraction du temps d'attention. Pour ne prendre qu'un exemple, par exemple, sur YouTube, tous les jours, l'humanité visionne en cumulé 120 000 ans de vidéos. Donc 1 milliard d'heures de vidéos sont regardées sur YouTube. D'ailleurs, pour l'anecdote, on n'est pas loin d'un tel montant pour TikTok aujourd'hui. Et sur cette immense quantité de vidéos regardées quotidiennement par l'humanité, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation de l'algorithme de YouTube. Sur TikTok, qui était quasiment inexistant, ne serait-ce que 2-3 ans, c'est quasiment 100% des contenus qui sont recommandés par l'algorithme. On commence à percevoir l'immense rôle arbitraire d'algorithme pour construire et orienter la façon dont on se représente le monde. Puisque les médias sociaux, aujourd'hui, s'imposent comme première porte d'accès à l'information, y compris à des médias traditionnels. Radio, presse, TV, c'est souvent à des podcasts, à des articles en ligne, à des séquences de rediffusion qu'on accède, et on y accède via la promotion algorithmique qui en est faite à travers nos feeds d'actualité ou à travers les vidéos recommandées sur YouTube. Donc les algorithmes de recommandation sont de très puissantes machines à extraire notre temps d'attention, et ce sont ces machines qui sélectionnent dans l'immense quantité d'informations disponibles celle qui a le plus de chances de retenir votre attention à un instant T. Après, on parle d'une classe d'algorithmes bien particulière, mais ce sont déjà des algorithmes qui jouent un rôle indéniable, très important, dans ce qu'on peut appeler l'algocratie.
Ok. Ça, c'est vraiment pour la partie un petit peu définition. Alors, juste avant de rentrer plus dans le contenu, Hugues, j'ai une question. Vous êtes ingénieur, Arthur est ingénieur, vos préfaciers sont tous les deux ingénieurs, hein, Gilles Babinet et Jean-Marc Jancovici. Est-ce que la pensée de l'algorithmie est une sorte de monopole de l'ingénierie ?
Bonjour à tous. Et aujourd'hui, oui, malheureusement, pour pouvoir découvrir le monde de l'algorithme, le monde de la programmation, le monde de logiciel, il faut démarrer des études d'ingénieur. Malheureusement d'ailleurs, hein, c'est un des grands reproches que je fais au système éducatif, c'est qu'il faut passer par des études, par exemple à l'UNB, c'est Polytechnique, ou Sciences, ou éventuellement Solvay, mais sorti de là, personne ne va découvrir quelque algorithme qui soit dans son parcours académique. Ni les médecins, ni les sociologues, ni les philosophes, ni les avocats. Donc oui, c'est vraiment lié à, malheureusement, on fait une association qui est, à mon avis, peu rébarbative pour beaucoup de gens, entre algorithmes et mathématiques. Alors que d'ailleurs, on voit dans les recrutements que parfois on recrute des historiens, des philosophes ou des latinistes qui ont exactement le type de mécanisme de pensée qui pourrait faire d'eux d'excellents algorithmiciens.
mais ils devront réapprendre sur le tard parce que justement ils ont pris un fil d'études qui ne leur a pas permis de découvrir ce champ-là.
Alors, vous dites dans votre ouvrage que le but de votre essai, c'est de répondre à la question « Les algorithmes sont-ils vraiment indispensables ?» Alors, j'ai pas envie d'épargner à tout le monde les lectures du livre, qui est très bien, mais quand même un peu en avant-goût, sont-ils vraiment indispensables ?
Alors, c'est une question extrêmement importante, parce que, bon, Arthur, ici présent, a parlé des algorithmes de recommandation, qui de fait, alors on peut se demander s'ils sont indispensables, mais en même temps le web a une telle infinité d'informations qu'on imagine mal devoir à la main sélectionner et chercher l'information qui nous semble la plus probante. Donc si ce n'est déjà que pour cela, on a besoin d'un système, un moteur de recherche par exemple, ou un mécanisme de filtrage. Bon. Mais indépendamment de ça, pensez à GPS pour vous repérer dans les villes. Alors à Bruxelles, peut-être que vous êtes victime ou vous y êtes assujetti, mais on a le décret inscription par exemple. Alors le décret inscription, c'est un algorithme intéressant parce qu'en France il y a par exemple Parcoursup qui est un algorithme qui va déterminer pour vous quel est l'institut d'enseignement qui est le plus approprié à vous. Et le décret inscription, c'est un peu la même chose. La question qu'on pourrait se poser, puisque bon, pour le GPS ou les algorithmes sur le web, je ne crois pas qu'on puisse discuter de leur nécessité, puisque bon, se repérer dans une ville ou aller chercher la bonne information au bon moment, on peut considérer, alors c'est pas forcément bien fait, mais on peut considérer qu'on a quand même besoin d'un coup de main algorithmique. En revanche, pour s'inscrire dans les écoles, est-ce qu'on a besoin d'un algorithme ? Et là, la réponse, c'est pourquoi on l'a fait, et on l'a fait parce qu'à un certain moment, il y avait des écoles qui étaient beaucoup plus sollicitées que d'autres, et qu'il semblait qu'il fallait établir des critères, et dès lors qu'il y a des critères de sélection de quel enfant peut aller dans quelle école, et qu'on établit ces critères, pourquoi pas les mettre dans les mains d'un algorithme. Et un dernier exemple, ça a été le Covid. Moi, j'étais impressionné, lors de la crise du Covid, par le déferlement d'algorithmes qui nous sont devenus nécessaires pour affronter ce Covid. Alors rappelez-vous des algorithmes de traçage, rappelez-vous des algorithmes d'accès dans les établissements avec le QR code, rappelez-vous des algorithmes qui vous permettaient de vous inscrire pour la campagne de vaccination. On a été assujettis, on a été assommés d'une déferlance d'algorithmes. Et je pense que c'était nécessaire, parce que la gestion du Covid, ça s'est avéré extrêmement complexe, et les hommes tout seuls n'y parvenaient pas.
Alors, si ces algorithmes sont présents partout, on entend, et notamment sur les médias sociaux, Arthur, vous en parliez, de la prolifération de fake news, entre autres, notamment sur le Covid, c'est un très bon exemple, les chambres d'écho, tout ce qui va être la polarisation de l'opinion. Aujourd'hui, peut-être Arthur, votre ouvrage parle beaucoup, notamment des réseaux sociaux. Comment est-ce que la démocratie, justement, impacte notre démocratie, pour revenir aussi au titre de notre échange aujourd'hui ?
On peut dire que la tradition philosophique occidentale accorde une importance considérable au débat des idées. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, sacralise la liberté d'expression pour permettre à chacun de prendre part au débat des idées. On imagine que c'est en confrontant les idées les unes aux autres qu'on va faire émerger les meilleures idées, c'est-à-dire les idées les plus justes ou les plus utiles ou les plus raccords avec l'état réel du monde. Ce débat des idées obéit à certaines règles. C'est-à-dire qu'il y a un choix de qui peut s'exprimer en public, de quelles opinions sont promues au détriment de quelles autres. Et bien souvent, ces règles qui président au débat des idées décident un peu par avance de l'issue de ce débat des idées. Évidemment, si une opinion est complètement étouffée ou invisibilisée, elle aura peu voix au chapitre dans le débat des idées, donc elle ne sera pas forcément mise à l'agenda politique. Alors comme on n'est pas omniscient, on s'en remet à des médias, au sens étymologique du terme des intermédiaires, pour accéder à l'information au sens large. Historiquement, on s'en remettait à des médias traditionnels, donc radio, presse et télévision, et comme je l'ai dit, on s'en remet de plus en plus aux médias sociaux aujourd'hui, donc, qui incluent évidemment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les algorithmes sont les premiers à décider quelles idées on voit au chapitre, pour la simple raison que ces idées retiennent ou non l'attention. Et ça a énormément d'incidence sur notre façon de nous informer, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Première conséquence, peut-être la plus connue, c'est la formation de bulles informationnelles. La bulle informationnelle, ou filter bubbles en anglais, c'est le fait qu'on vit finalement dans des microcosmes numériques parallèles, depuis lesquels on n'accède pas à la vision d'autres personnes sur les mêmes sujets, ou sur des sujets distincts. Donc pour prendre un exemple parmi mille, s'il y a des manifestations violentes, comme c'est le cas en ce moment en France, ou des manifestations qui génèrent des violences, si on a un a priori plutôt pro-police, on va voir exclusivement sur notre film d'actualité des vidéos de Black Bloc ou de manifestants violents qui s'en prennent gratuitement aux forces de l'ordre. Si inversement on a un a priori plutôt anti-flic, on va voir exclusivement des vidéos de violences policières qui semblent gratuites et motivées. Là, c'est un aspect essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas de fake news. Il s'agit, dans les deux cas, d'une partie de la réalité, mais d'une portion extrêmement réduite de la réalité à laquelle on accède via un angle de vue donné.
Chacun a un peu son propre réel sur les réseaux sociaux, on peut dire.
Exactement. Chacun navigue sur quelque chose qui lui semble être absolument tangible, réel, factuel, d'autant plus si c'est illustré par des vidéos. Mais on accède à une partie tellement infime de ce réel qu'on n'arrive plus à faire société. Et en fait, les réseaux sociaux et leurs algorithmes ne se contentent pas de nous informer, de nous enfermer dans notre bulle informationnelle, ils nous attirent vers des sujets vers lesquels on a le plus de chances de développer un angle de vue radical. Puisque l'extrémisme et la radicalité, c'est un gage du temps qu'on va passer sur leurs algorithmes, sur les réseaux sociaux, à nous remettre de contenus extrêmes et clivants, et à nous insurger contre le camp opposé. Donc un effet que ça a à l'échelle collective, c'est que ça érode peu à peu le socle de connaissances, de croyances qu'on a en commun à l'échelle d'une société qui nous permettent de faire société, qui sont à la base du contrat social. Et alors là, on parle exclusivement de deux façons différentes d'accéder à la réalité. Mais le problème se situe aussi bien au-delà, puisque les algorithmes promeuvent terriblement le faux devant le vrai. Pour la simple raison qu'une information fausse étonne et que tout ce qui étonne suscite de l'attention, suscite notre attention. Par exemple, sur Twitter, un tweet faux se propage en moyenne 6 fois plus vite qu'un tweet vrai sur une information équivalente, sur un sujet tout à fait équivalent. Un autre exemple, c'est qu'à chaque mot outrancier que vous rajoutez à un tweet, ce tweet va se propager en moyenne 20% plus loin. Donc on voit que finalement sur ces réseaux sociaux, l'absence de règles que défend par exemple Elon Musk quand il arrive à la tête de Twitter ne correspond pas du tout au débat des idées, ne correspond pas du tout au cas idéal du débat des idées, de la liberté d'expression telle qu'on l'entend en Occident.
Justement, Hugues Bersigny, donc vous êtes enseignant, vous êtes professeur, vous êtes académicien. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez arriver un petit peu plus, le fait que la parole de l'enseignant, de l'académicien et potentiellement de l'expert, on l'a beaucoup vu pendant le Covid, est peut-être plus remise en doute, plus contestée que ce qu'elle pouvait peut-être être avant?
Oui, alors ça c'est une évidence, hein. Clairement, et de fait c'est assez particulier parce que ces algorithmes de recommandation, ils ont raison de vouloir attirer l'attention, puisque en fait ils sont là pour permettre de justement aller plus vite à des choses qui sont censées vous intéresser. Donc il y a, moi j'en écris beaucoup d'ailleurs des algorithmes de recommandation, et je le fais à juste titre dans des secteurs, comme prenez par exemple le secteur de la médecine, où c'est assez normal qu'on vous recommande quelque chose qui a éventuellement bien fonctionné sur d'autres, puisque en effet, de manière médicale, ce qui aurait fonctionné, puisque les patients se ressemblent, ce qui a... Alors, en matière culturelle, c'est aussi discutable, c'est-à-dire sur Amazon, moi je me retrouve assez bien, en général, dans les recommandations qui sont données. Mais ce que Arthur met en exergue, c'est le problème de l'information. Où là, de fait, on a l'impression qu'il faudrait une espèce d'autorité qui se sorte de la simple captation d'attention. Et on l'a vu, justement, comme vous dites, en période du Covid, et c'est assez surprenant de voir qu'en France, par exemple, si vous allez sur Amazon, les deux livres qui sont les plus vendus, c'est le livre d'une anti-vaccin, je sais pas, une généticienne qui est profondément anti-vaccin, et puis Zemmour, le deuxième, enfin, pour vous dire un tout petit peu l'état de l'opinion en France, et certainement, les algorithmes et les recommandations, cette personne pendant le Covid a joué un rôle extrêmement néfaste, en tout cas a renforcé la position anti-vaccin. L'idée n'est pas ici de savoir si on est pro ou anti-vaccin. Ce qui est clair, c'est qu'elle a contribué. Et nous, en tant qu'experts, c'est-à-dire que les scientifiques à l'Académie qui essayeront de véhiculer. Alors, heureusement, on a eu quelques stars chez nous qui ont bien fait leur job. Je pense à Marius Gilbert, par exemple. Heureusement qu'on avait des gens comme Marius Gilbert qui apparaissaient à la télévision chez nous et qui pouvaient rétablir le vrai du faux. Mais quand on n'a pas des personnalités du style qui ont aussi un peu. Eh bien, il y a ce qu'on arrive avec. On a bien vu que dans certains quartiers, comme moi je me suis beaucoup impliqué dans la campagne de vaccination, il y a des quartiers où la vaccination a été rejetée en bloc, de l'ordre de 70% des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et quand on leur demandait, il y avait évidemment l'effet Raoult, l'effet et qui ont été propulsés, ces personnes n'existaient pas avant les réseaux sociaux, et c'est grâce aux réseaux sociaux que les anti-vaccins et les complotistes ont pu émerger. Donc en effet, c'est un gros souci pour nous.
Est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas dire que les algorithmes de recommandation, ce que vous faites la différence hein, dans votre livre entre les algorithmes qui conseillent et les algorithmes qui contraignent, est-ce que finalement, et je fais un peu référence à ce dont on parlait juste avant, hein, de la gouvernementalité algorithmique, les travaux d'Antoine Trouvrois et Thomas Berthe, est-ce que ce n'est pas un petit peu la même chose? Est-ce que les algorithmes de recommandation ne vont pas toujours en même temps essayer de devancer d'un pas, et en vous devançant d'un pas, en fait, forcer un comportement? Je prends peut-être un exemple simple, tout le monde a déjà vécu ça. Vous êtes en train d'écrire un message sur votre téléphone, et le téléphone propose la fin du message. C'est quelque chose que tout le monde a déjà vécu. Peut-être que vous n'aviez pas envie d'envoyer ça, mais le téléphone propose ça, vous dites, bah, oui, très bien, mais j'envoie ça. Finalement, c'est pas exactement ce que vous vouliez, vous ne vous sentez pas directement contraint, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu une intention de ne pas faire ce que vous vouliez faire à la base?
Alors, c'est-à-dire, on se rend pas compte que souvent, on peut arrêter le fonctionnement de certains algorithmes, les désactiver, mais on ne le fait pas, évidemment, c'est devenu des réflexes. Alors, je fais quand même toujours la différence entre les algorithmes dont on peut se débarrasser et les algorithmes dont il est impossible de se débarrasser. Par exemple, en Belgique, le décret inscription, vous ne pouvez pas inscrire un enfant à l'école sans passer de... Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les algorithmes qui contraignent. Si vous allez dans une banque pour faire une demande de crédit, à 100%, il y a un algorithme qui va décider oui ou non si vous pouvez accepter. Là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par l'algorithme. Même un GPS, vous pourriez décider de vous fier à votre sens de l'orientation. Donc il y a quand même encore aujourd'hui la possibilité, même cet algorithme d'autocomplétion, si vous allez farfouiller dans les paramètres de votre téléphone ou de l'application en question, vous pourriez le désactiver. Mais c'est sûr que, là vous avez raison, la frontière entre, c'est bien le problème, l'algorithme qui suggère, qui conseille et celui qui contraint, la frontière devient extrêmement floue. Et souvent, à cause des automatismes, ceux qui conseillent deviennent des contraignants. Mais il y a aussi ceux qui contraignent. Par exemple, pendant le Covid, vous aviez besoin d'un QR code pour entrer dans certains établissements. Sans le QR code, qui était le reflet de votre état vaccinal, vous ne pouviez pas rentrer, donc ça devenait une véritable contrainte. Donc il faut encore faire la différence entre ceux que vous pouvez simplement désactiver et ceux dont il est impossible aujourd'hui de se passer.
Arthur, justement, d'un point de vue démocratique, vous, les algorithmes de recommandation, comment est-ce que vous voyez leur impact, notamment aussi dans vos travaux?
Je pense qu'ils ont un impact considérable puisqu'ils définissent l'état du débat public. Quand on parle, par exemple, des promoteurs de désinformation, je pense que le problème ne réside pas vraiment dans l'existence des gens qui prennent parti et émettent des avis sur des sujets de société. C'est même essentiel que puissent s'exprimer largement sur ces sujets. Mais comme le dit Hugues, la question est comment leurs idées ont été terriblement promues au détriment d'autres. Et comme la fausseté est terriblement promue sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très problématique. Alors, j'ai parlé des bulles informationnelles, de la propagation des fake news, mais en fait, il faut bien se rendre compte que ces effets qui se situent dans le monde numérique ont des conséquences dans le monde réel. Par exemple, les élections démocratiques sont en permanence dévoyées par l'ingérence d'algorithmes de recommandation, que ce soit par des acteurs malveillants qui décident de manipuler des élections, comme ce fut le cas avec Cambridge Analytica, mais c'est aussi organiquement, disons, que les algorithmes prennent part au débat public en favorisant telle opinion au détriment de telle autre. Donc typiquement, pour simplifier la situation, on peut dire qu'en 2016, l'algorithme de YouTube a fait élire Donald Trump, toute chose égale par ailleurs. C'est une affirmation qui peut paraître choquante comme ça, mais en fait, si vous regardez, l'élection américaine de 2016 c'était joué à 60 000 voix réparties dans trois états balance, c'est-à-dire très étroits, ou trois états avec très peu de voix qui distinguaient républicains et démocrates. Et il y a plus de 150 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un très léger biais de l'algorithme de recommandation aurait suffi à faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Et en fait, ce biais n'était pas léger, il était massif et systématique. 80% des vidéos en lien avec la présidentielle américaine étaient favorables au camp républicain. Non pas parce que un groupe de conspirateurs diaboliques à la tête de YouTube ou de Google a décidé de faire élire Donald Trump, plutôt imaginez que ça aurait été le contraire dans la Silicon Valley, mais parce que cet algorithme donnait préférence à la diffamation, au faux, à l'exagération et à tout, en fait, tout ce sur quoi Donald Trump avait axé sa stratégie politique.
Tout sa marque de fabrique, effectivement, à ce niveau-là.
Absolument. Et les théories du complot sur lesquelles aussi il avait adossé une partie de sa stratégie de communication, comme QAnon, qui a fait un peu moins parler en France qu'aux États-Unis, mais il faut quand même se rendre compte de l'ampleur du mouvement. C'est une théorie du complot qui a atteint son sommet en 2021. Il y avait un électeur républicain sur trois qui adhérait à la thèse suivant laquelle les démocrates étaient pédophiles et élevaient des bébés dans leur cave pour boire leur bébé, le sang des bébés et accéder à la vie éternelle. C'est donc une thèse qui aurait paru probablement absurde au Moyen-Âge et qui aujourd'hui atteint une proportion très significative de l'électorat d'un pays très éduqué.
Aux États-Unis, encore 50% de ce qu'on appelle des flatistes qui pensent que la Terre est plate. J'ai une idée de l'impression.
C'est des chiffres qui augmentent. Et les médias sociaux n'y sont pas pour rien.
Qui est super rassurant. Ce qui vous permet une super transition justement pour un peu la deuxième partie de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et effectivement, Arthur, votre ouvrage est remarquablement documenté, entre autres sur les différentes études qui existent, les différents chiffres. Et vous offrez tout un chapitre aux différentes régulations qu'on pourrait mettre en place. Voilà, si demain vous aviez tous les pouvoirs sur les médias sociaux, si il y avait une ou deux régulations par lesquelles vous commenceriez, qu'est-ce que vous feriez justement pour réguler un petit peu le débat public sur les médias sociaux?
Heureusement, j'ai pas tous les pouvoirs pour réguler les algorithmes et les mettre à mon service, mais malheureusement, on est dans une situation pas très différente de celle que vous décrivez, sachant que les médias sociaux aujourd'hui peuvent être considérés comme des régimes autoritaires avec des autocrates à leur tête. Mark Zuckerberg est l'actionnaire majoritaire de Meta. Il peut décider du jour au lendemain, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs récemment, de complètement transformer l'algorithme de recommandation et de ce fait de métamorphoser la représentation du monde des 3 milliards d'utilisateurs réguliers de Facebook. Par exemple, il a décidé d'invisibiliser massivement les contenus à caractère politique, puisqu'il a compris que Facebook était la cible de nombreuses critiques sur le fait que Facebook renforçait, par exemple, la visibilité des contenus d'extrême droite, ce qui a été testé par toutes les